à le temps.
C'est parti.
C'est parti.
Ouais.
On va commencer par la présentation. Quand est-ce que t'es né?
Alors, je suis né le 22 avril 1975 à Montpellier.
Donc, tu mesures combien?
Je fais 1m70 et je pèse entre 69 et 74 kilos, selon les périodes de l'année.
D'accord. Donc, comment on peut te décrire? Préparateur physique, auteur de livres, écrivain?
Mon ancien champion du monde de karaté, maintenant préparateur physique écrivain, ouais. Je trouve que ça fait un peu pompeux le terme écrivain. Oui, auteur de livres sur la forme, le bien-être et la muscu.
Et donc ton parcours scolaire pour arriver à ça, à coach sportif?
Alors, j'ai passé un BTS de diététicien après mon bac. Ça, c'était ce que mes parents voulaient. Après, je suis parti aux États-Unis pour persévérer dans le karaté, etc. J'ai passé l'équivalent d'un diplôme de kiné là-bas. Donc, physical therapist, ça s'appelle. J'ai jamais officié, j'aurais pu ouvrir un cabinet, etc. Pour l'instant, ça m'a jamais tenté. Parce que très rapidement, parallèlement au karaté, vu que c'était pas un sport professionnel, le karaté, il fallait que je gagne ma vie. Et comme j'avais cette double casquette de champion du monde de karaté et en même temps de kiné et de préparateur physique, etc., rapidement, j'ai eu des sportifs blessés qui m'ont été confiés. Des mecs des footballeurs américains de la NFL, des gens de la NBA, etc. Et j'ai commencé à travailler avec eux. Et voilà, c'est comme ça qu'un beau jour, j'ai plusieurs athlètes qui m'ont dit « Pourquoi t'écris pas des livres ?» Et je me suis dit « Bah ouais, pourquoi pas ?» Donc je suis rentré en France parce que ma mère est tombée malade, elle a eu un cancer. Et donc voilà, c'est là que j'ai commencé à travailler en fait sur les premiers bouquins, sur la pliométrie, la préparation physique des sports de combat. Et voilà, et depuis quelques années, je me suis orienté vers des livres un tout petit peu plus grand public, moins sectorisés, moins spécialisés. Donc des bouquins sur la muscu, des bouquins sur la gestion des problèmes corporels, puisque les sportifs sont tout le temps blessés. Donc voilà, l'idée c'était de proposer une approche plus préventive que pour guérir en fait. Voilà.
Donc, t'as resté longtemps aux États-Unis?
Je suis resté pendant presque 8 ans par intermittence.
Donc j'ai rentré.
Voilà, je rentrais pendant 2-3 mois, parce qu'il y avait des périodes où j'étais engagé officiellement par des équipes professionnelles de la NFL, donc c'était eux qui s'occupaient des permis de travail. Mais quand t'as pas de permis de travail aux États-Unis,
ouais, t'es
obligé de rentrer, obtenir un visa, repartir, etc. Donc ça fait 8 ans que je fais ça. J'ai failli me mettre avec une femme là-bas qui m'aurait permis d'avoir la green card, mais ça ne s'est pas fait.
Voilà. Ça marche.
Ouais, je me marre beaucoup. Hein.
Ouais, tu aurais vachement dans la NFL quand même.
C'est bien sans être bien, parce que le problème des sports professionnels américains sont des lieux où il y a une énorme pression sur chaque joueur, et toute cette pression elle est à nouveau reversée sur tous les acteurs qui préparent ces joueurs, à savoir les préparateurs physiques, les kinés, les docteurs, etc. Donc du coup tout le monde est sous pression, et généralement c'est les derniers arrivés dans une équipe qui sautent. Donc si un sportif se blesse, tu sautes. Si la star de l'équipe, tu sautes, et en plus tu peux te voir avoir un procès aux fesses. C'est très particulier le sport US, très procédurier, mais à la fois c'est très riche d'expérience, parce que les Américains sont des gens qui laissent libre cours à une certaine créativité, ou que ça soit dans les traitements thérapeutiques, dans la préparation physique. La seule chose qu'ils te disent, si ça marche pas, t'es viré. Voilà.
Ouais, mais ta chance.
Mais on te laisse ta chance, exactement. On te laisse ta chance. Alors que le gros problème de la préparation physique, notamment en Europe, c'est que pour moi, c'est devenu un petit peu trop fonctionnaire. C'est-à-dire, les mecs ont leur poste, et puis on a tellement peur de perdre son poste que du coup, ben, on garde toujours les mêmes programmes. Risque. Voilà, on prend plus aucun risque. Or, pour développer des grands champions, ben, de temps en temps, il faut sortir des sentiers battus. Et c'est pour ça que sur Superphysique, j'avais vu des topics comme le caveman training et tout ça, tous les entraînements que font les gars qui font du MMA et tout ça. C'est vachement en train d'être récupéré par les préparateurs physiques de la NFL pour l'esprit un peu combat, guerrier et tout ça. Donc ça prouve bien que en étant un peu créatif et en ayant une vision parfois un peu différente de ce qui se fait en athlétisme, parce que l'athlétisme, c'est ce qui a vachement dirigé la préparation physique, l'athlétisme et l'haltérophilie pendant de nombreuses années. Donc il y a encore des choses à trouver, il y a encore des choses à combiner, à utiliser, à mélanger pour créer à la fois des super athlètes et des super physiques.
Bah, ben, ton parcours sportif.
Ouais.
T'as tout de suite commencé les sports de combat quand t'étais gosse ou alors, t'as fait d'autres sports avant?
J'ai commencé par le judo quand j'avais 8 ans. On jouait un petit peu à Astérix avec moi, c'est-à-dire on me faisait chuter à droite et à gauche. Donc après j'ai arrêté le judo, on m'a foutu au football. Mais au football, la seule chose qui m'intéressait c'était de courir plus vite que le voisin. Le ballon, je m'en foutais. Donc mon père m'a foutu à l'athlétisme. Parce que j'étais très doué, je courais très vite. Là, je suis allé jusqu'au championnat de France minime sur 50-60 mètres.
Tu viens de t'étendre ? Tu étais 14 ans, ça, minime ?
Ouais, je courais, je faisais du 6-78, quelque chose comme ça. C'était rapide pour l'époque.
Sur combien ? Sur
50 ou 60 mètres. Je te le dirai éventuellement, Rudy. Mais bon, après, la voie royale, c'était le 100 mètres. Comme je suis un petit gabarit, c'était pas possible de percer là-dedans. Et voilà, il y a eu la mode des films de Van Damme. Parallèlement à ça, moi, j'ai découvert le karaté avec Dominique Valera, Jean Frenette. C'était des champions d'une autre époque. Et je me suis dit, ben voilà. C'est ce que je veux faire.
Donc tu t'es mis vers 16 ans, en gros.
Vers 15 ans, je commençais à faire le grand écart partout, dans ma chambre, dans le salon.
Tu t'entraînais et tout,
pour faire le grand écart. Je m'entraînais, voilà, c'est ça, t'as tout compris, à l'arrière du bus qui me ramenait de l'école, j'étais l'attraction du collège, et voilà, puis après j'ai commencé à faire des compètes combat, kata, traditionnels, et puis par la suite j'ai découvert le karaté artistique, et une évolution un petit peu... show à l'américaine du karaté avec des acrobaties, des choses comme ça. Et comme il y avait à mon époque un garçon qui s'appelait Michael Milan qui était très fort en kata, que je n'aurais jamais pu surpasser, je me suis orienté vers le karaté artistique directement. Voilà.
Et donc c'est là-dedans que tu as été champion du monde.
Et c'est là-dedans que j'ai été 5 fois champion du monde. Voilà.
Comment ça se passe avec tu disais que tu avais été aux États-Unis pour faire ça?
Alors exactement, c'est une discipline qui est très très développée dans tout ce qui est pays anglo-saxons, Angleterre, Canada, États-Unis, Australie, il y a un petit peu en Allemagne et en Italie, en Chine pas trop, donc c'est des gros pays, c'était ça. La France s'y est mise assez tard quand je suis rentré des États-Unis et que j'ai aidé un petit peu à lancer ce mouvement, le promouvoir. Et j'ai mis fin à ma carrière sportive il y a 5 ans. J'en ai 35, c'était donc il y a 30 ans. Voilà, j'ai gagné mes derniers championnats du monde. Et puis comme ça devenait beaucoup trop acrobatique pour un vieux comme moi, je me suis dit, il est temps d'arrêter.
Et comment on est noté en fait en carrière artistique?
Alors, c'est un peu pareil que du patinage. L'idée, c'est que tu as des figures imposées, voilà, et tu essaies en fait de démontrer la plus grande vitesse, la plus grande stabilité possible, le charisme que tu mets sur scène. C'est pas de la danse. Il faut vraiment que les gens ils aient l'impression que tu frappes quelqu'un, tu donnes des coups, tu bloques des coups, etc. Et puis les Américains ont rajouté ce qu'ils appellent le showmanship, c'est-à-dire des trucs un petit peu ultra acrobatiques qu'on voit dans Tekken et tout ça, pour donner un peu cette dimension très spectacle, voilà. Donc t'es noté sur tous ces paramètres-là, et voilà, c'est celui qui a les meilleures notes qui gagne.
Et donc, ça, t'as permis, par exemple, de participer à des galas, j'ai vu la dernière fois.
Oui, alors j'ai fait... Je crois que je suis la personne qui a fait le plus grand nombre de fois Bercy, le Festival des Arts Martiaux de Bercy, je l'ai fait 12 fois. Voilà, 12 fois Bercy. Après, bon, j'ai été invité un peu partout, par mes contacts dans le sport américain, j'ai fait des inaugurations de Super Bowl, de matchs de la NBA.
De Super Bowl,
hein? Ouais. Le Super Bowl, j'ai fait ça il y a 6 ans en arrière avec 4 garçons avec lesquels je m'entraînais là-bas aux États-Unis. Donc voilà, c'est toujours dans cette notion du sport à l'américaine. Donc il y avait les pom-pom girls d'un côté et il y avait les mecs qui sautaient dans
le militaire à l'autre côté.
Voilà, de l'autre. Donc voilà, ça m'a permis de vivre des expériences un peu hors normes, vu que bon, mon sport c'est pas aux Jeux Olympiques. Voilà. Et maintenant, je fais beaucoup de muscu. Je continue à vachement faire de recherches pour les athlètes que j'entraîne. Et je me suis mis, je fais un petit peu de full contact et du MMA, mix, voilà. Mix martial arts.
Pas dans l'objectif compétition.
Non. J'ai pas envie d'avoir le nez retourné, le bras retourné. Non, c'est juste pour, pendant des années j'ai tapé dans le vide, là voilà, c'est pour donner une autre dimension à ce que j'ai toujours aimé les sports de combat, donc voilà, ça me permet de pratiquer d'autres choses, d'appréhender le sport d'une façon différente.
Ça se transfère bien ou...
Disons que tout mon passif et mon agilité me permet d'aller très vite et de donner des coups de pied et des coups de poing très rapidement. Par contre, quand on m'attrape, des fois, oui, je morfle un petit peu.
Quand on m'attrape et qu'on m'amène au sol, ouais, des fois, ça fait aïe aïe aïe, quoi. Et donc, par rapport à la musculation, tu t'es mis en même temps que t'es mis quand, en fait, par rapport
Alors, à la muscu, j'ai commencé la muscu, j'avais 13 ans. À 13 ans, j'avais un banc d'Décathlon dans ma chambre, une barre, des haltères, voilà.
Pourquoi tu t'es mis pareil,
parce que j'avais des modèles comme Schwarzy, Van Damme, Stallone, qui c'est qu'il y avait à l'époque, Lila Brada, c'était dans les culturistes comme ça de l'époque. Parce que voilà, je trouvais que les gars, ils avaient une plastique, c'était des héros, c'était des combattants, des warriors, ils dégommaient 500 personnes avec une mitrailleuse. Voilà, ça me faisait rêver. Rapidement, j'ai compris l'intérêt aussi d'avoir une certaine musculature pour le sport. Et c'est là que j'ai commencé à voilà différencier à la fois la musculation pour développer, je dirais, une plastique particulière, et puis la musculation pour augmenter ses performances. Donc pendant des années, j'ai plutôt pratiqué la musculation pour les performances.
Pour le karaté.
Voilà, et le karaté. Donc améliorer la vitesse, l'explosivité, etc. Et puis maintenant, je suis moins préoccupé par ma vitesse qu'avant, ou la hauteur à laquelle je saute, donc... Je m'intéresse à d'autres formes de musculation certaines formes de musculation purement la plastique, l'esthétique m'intéresse. Et puis voilà, c'est sympa d'avoir un
bon en muscu, tu m'entraînes seul, il n'y a pas eu de préparateur physique En karaté, il n'y avait pas de suivi.
Alors en karaté, j'ai fait partie de l'équipe de France pendant quelques années.
Il y avait un préparateur physique.
Alors il y avait un préparateur physique avec qui je m'entendais pas du tout. C'était vraiment la vieille école de la préparation physique, alors que moi j'étais déjà sur des lectures de Gilles Cometti ou de gars qui avaient un petit peu réfléchi à une autre forme de travail de musculation. Après, avec le temps que j'ai passé aux États-Unis, j'ai beaucoup été influencé par le travail américain en musculation. des gars comme Louis Simon, Dave Tate, Christian Thibodeau, enfin je pense voilà. Donc après je me suis entraîné au centre de préparation olympique américain où là pareil t'as des vrais tueurs en matière de musculation et préparation physique. Encore une fois, c'est pas que je trouve qu'en Europe il n'y a pas de choses intéressantes en termes de musculation, mais c'est juste que les Américains ils n'ont pas peur d'essayer des choses et parfois de partir dans des directions qui te paraissent complètement loufoques. Tu t'es dit mais ils sont barjots, et en fait quand tu prends le temps d'essayer, ben ça marche. Et je trouve que c'est intéressant, voilà. Donc moi c'est ce que mon leitmotiv, ça a toujours été ça. Plutôt que de dire ouais, ça, ce programme ou cette méthode, c'est de la merde, je prends mot pour mot ce qui est écrit ou ce que je vois, et j'essaie pendant 15 jours, 3 semaines, et je vois comment mon corps il récupère, il évolue, il bouge, etc. Et moi je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. C'est vrai. Voilà.
Pareil, après avoir un peu médiatisation, t'es passé pas mal de fois à la télé, invité dans les émissions. Mmh. Comment ça se passe en fait, ceux qui venaient te chercher pour que tu passes, j'ai noté sur ton site, par exemple, t'es passé à Vivement Dimanche.
Ouais.
T'étais toi l'invité alors, de l'après-midi
Non.
Comment
non.
ça se
passe Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Vivement Dimanche, j'ai eu la chance que l'attaché de presse du Festival des Arts Martiaux de Bercy fasse passer une petite équipe à Vivement Dimanche pour la promotion du festival. Et j'ai eu la même chance que Drucker au moment où, en fait, rentrer dans le studio, j'étais en train de m'échauffer en grand écart par terre. Et en fait, Drucker a toujours été horriblement raide. Donc, il est un garçon, enfin, un monsieur très très raide. Et en fait, il m'a demandé des conseils. Et donc, je lui ai dit, bah, écoutez, je serais ravi de vous répondre après l'émission. Donc, il m'a invité à bouffer avec d'autres personnes. Voilà, donc on a plus ou moins sympathisé, hein, c'est pas un collègue, mais j'ai donné quelques conseils, je lui ai fait un petit programme de stretching, et voilà, et un jour il m'a dit, vous êtes le bienvenu dans mon émission. Et je l'ai pris au mot, je l'ai rappelé quelques mois plus tard, je lui ai dit, je voudrais repasser dans l'émission. Il me dit, bah, pas de problème. Voilà.
Et donc tu faisais quoi dans l'émission?
Alors en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais des visuels d'arts martiaux, je montais des chorégraphies particulières. D'abord en solo, et puis après j'ai fait carrément venir d'autres pratiquants d'arts martiaux avec moi, puis après la directrice artistique de l'émission voulait qu'on se diversifie un petit peu, donc on a proposé carrément des choses avec des danseurs, des breakers, où on montrait l'aspect un petit peu karaté mélangé avec du breakdance et des choses comme ça. Et j'ai fait 5-6 émissions en 2 ans comme ça, mais j'étais pas invité, hein.
Ouais, mais c'était vraiment voilà. Souvent. Donc pareil, c'était passé qui et qui, j'ai noté Stade 2 aussi, il y avait eu un reportage sur toi,
ouais.
Stade 2.
Bah tout ça tu peux le retrouver sur YouTube, tu tapes Christophe Cariou.
Si on n'a pas sur ton truc YouTube, ça y est,
Stade 2 aussi. Ouais, donc, tu tapes Christophe Cariou dans YouTube et tu tombes Stade 2.
Je vais regarder derrière quoi.
Donc Stade 2, oui, m'a consacré un reportage à la fin de ma carrière. C'est toujours à la fin, en fait.
Ah ouais. Et tu leur dis, tu prenais la retraite ou pas?
C'est en fait, j'étais, je suis pote avec Pascal Gentil, le gars qui fait du taekwondo, et on discutait, et Pascal me dit, c'est con que tu arrêtes, t'es jamais passé dans le Stade 2. Et j'ai dit, bah ouais, c'est con, voilà. Il me dit bouge pas. Et Pascal en fait appelle le journaliste qui connaît Stade 2. Il lui dit voilà, j'ai Christophe Cariou, on est ensemble, il a jamais fait Stade 2, il prend sa retraite. Et le gars tout de suite lui a dit bah, putain, on va faire un reportage sur lui sans problème, allez c'est parti. Voilà comment. C'est souvent tu sais comme ça la vie.
La chance quoi.
Voilà, un peu de chance, ouais, être là au bon moment, un peu de sympathie des uns. De compassion des autres, et voilà.
Donc la dernière fois je cherchais sur Amazon, en fait, t'as écrit des livres, mais aussi t'as fait des DVD.
Ouais.
Donc ça, j'étais pas au courant, j'ai découvert ça sur Amazon.
Alors les DVD vont bientôt disparaître.
Ah bon? Pourquoi? Ouais,
parce que malheureusement la boîte qui les a produits a fait faillite. Donc je pense qu'Amazon écoule son stock, et puis ils seront plus en vente. Et puis bon, c'était des vieux DVD.
Je vais pas réussir un grand écart.
Ouais, alors non, alors réussir le grand écart est toujours en vente chez Karaté Bushido. C'est le magazine Karaté Bushido qui commercialise ça, donc si je dis que, que c'est plus en vente, elle va me tuer si elle tombe sur l'interview. C'était une époque où oui, où je passais souvent à la télé, donc il y a des gens qui ont rebondi sur le fait que je pouvais proposer des programmes vidéo.
Ouais, bah, t'as fait des trucs avec d'autres personnes, j'ai vu, sur les DVD, vous avez dit 3-4 des fois.
Ouais, alors ça c'était des DVD explicatifs sur le karaté artistique, expliquer les techniques, etc. Montrer les différents coups de pied, voilà. C'est pas ce que j'ai fait de mieux.
Ouais, on va parler de ce livre alors.
Ouais.
Dans l'ordre. Le premier, ça a été quoi, pliométrie performance ou...
Alors, il y a effectivement le premier bouquin, ça a été pliométrie et performance sportive, qui est devenu échauffement, gainage et pliométrie.
Ah, donc c'est le même en fait.
Ouais, c'est le même bouquin qui a été réactualisé. On a rajouté 150 pages il y a
150 pages.
Ouais, de plus. La première version faisait 140-150 pages. Et là, on a rajouté 150 pages.
Qu'est-ce que t'as rajouté dans 150 pages?
Eh ben, de nouveaux exercices, une approche un petit peu plus poussée de la pliométrie, une approche un peu plus poussée du gainage à l'intérieur, l'intérêt ou non d'utiliser des plateformes vibrantes quand on fait de la pliométrie, est-ce que la plateforme vibrante ça marche ou ça marche pas, dans quel contexte ça marche, dans quel contexte ça marche pas. Voilà, c'est un petit peu un livre qui fait le tour de toutes ces questions.
On a ensuite le deuxième, alors c'est la préparation physique pour les sports de combat.
Exact. Donc ça, c'était pour un petit peu faire le point sur ma façon d'appréhender la préparation physique pour les sports de combat.
Donc parce qu'il n'y avait rien sur le sujet.
Il n'y avait rien sur
même
le sujet.
Même dans les revues, il n'y a rien là-dessus.
Disons que ce que tu trouves dans les revues, c'était un peu arriéré, je trouvais. On en était encore à parler de biceps le lundi, épaules le mardi, et pecs le mercredi. Alors c'est très bien pour développer un physique athlétique, musclé. C'est moins bien quand tu veux faire vraiment de la préparation physique pour améliorer le punch d'un boxeur. Voilà. Donc je voulais combler ce vide-là. Et le livre a été bien accueilli. Voilà.
Et donc ensuite, donc c'est là qu'on connaît tous, un corps sans douleur.
Alors un corps sans douleur, qui est... En fait, un corps sans douleur, la genèse de ça, c'est... moi-même, j'ai été blessé. J'ai eu une rupture totale du jumeau, donc des mollets. En fait.
Les deux?
Juste le mollet droit. Les deux faisceaux des jumeaux qui ont pété à la réception d'un saut. Et donc, bon, ben voilà, c'est le départ des grosses galères de tout grand sportif. Une mauvaise opération par-dessus... Une mauvaise rééducation, et puis voilà, et des médecins qui sont...
Pas forcément compétents.
Voilà, comme souvent, parfois assez paumés, quoi, et qui te disent, bon, ben, maintenant, faut attendre, hein, faut attendre que ça récupère.
Et donc, comme ça passait pas, tu t'es mis...
Alors, en fait, comme ça passait pas, je suis parti aux États-Unis, parce qu'il fallait bien gagner sa croûte, et donc, j'ai mis le forcing sur la préparation physique, et j'ai découvert, en fait, des gens qui dirigeaient l'Académie de médecine sportive américaine, dans lequel j'ai passé une thèse sur l'équivalent d'une thèse en kinésithérapie en France. Et voilà, c'est eux qui m'ont ensuite coopté dans plein d'équipes pro pour que je m'occupe vraiment que des sportifs blessés. En fait, j'étais la jonction entre l'athlète qui sort d'une opération et son retour sur le terrain. Je m'occupais des sportifs de A à Z. Et j'ai eu la chance de travailler avec un garçon qui s'appelait Vernon Davis, qui est un très très bon joueur maintenant de la NFL, une grosse star de la NFL, et j'ai reconstruit, entre guillemets, Vernon de la tête aux pieds, voilà, avec les principes des chaînes musculaires dont je parle dans les bouquins, les automassages, etc. Et l'idée, en fait, c'était de lui réapprendre à bouger d'une bonne façon, pour qu'il limite les blessures, et puis surtout qu'il récupère plus facilement après les matchs. Et voilà, il m'a présenté à d'autres personnes qui avaient rien à voir avec le sport, des hommes d'affaires, qui avaient des hernies discales, des choses comme ça, et il se trouve voilà qu'en appliquant les exercices du livre sous ma supervision, puisque j'étais là-bas, j'étais aux États-Unis, donc je coachais ces gens-là, ben, en l'espace de 2-3 mois, les hernies, ben, elles diminuaient, les gens n'avaient quasiment plus mal là où ça faisait 10 ans qu'ils prenaient de l'ibuprofène. Et voilà. Et un jour, un gars m'a dit, vous devriez écrire un livre sur votre façon de voir les choses. Parce que j'ai rien inventé dans ce livre, je n'ai fait que compiler le meilleur de ce qui existait, quoi. Voilà. Et ma mère est tombée malade à ce moment-là, je suis rentré en France. Et voilà, j'ai proposé ce projet de livre à plusieurs éditeurs, et Thierry Soucard a dit oui tout de suite, voilà.
Mais ouais, depuis plusieurs reprises, tu connais déjà Thierry Soucard ou pas en fait?
Alors moi j'aimais Thierry Soucard par rapport à tout ce qu'il avait écrit dans la nutrition, parce que je trouvais que c'était un monsieur très pointu dans son domaine, qui était très avant-gardiste, qui avait pas peur de parler de choses qui étaient pas forcément encore très médiatisées, très connues, qui prenait des positions, parfois arrêtées, tranchées, et je trouvais ça intéressant. En plus, c'est avec lui que j'ai découvert les histoires de compléments alimentaires, comment prendre du magnésium, quand prendre de la vitamine D, à quel moment, etc. Donc, tout naturellement, quand j'ai trouvé qu'il avait créé une maison d'édition, je me suis dit, je vais chez lui. Voilà, je
l'ai proposé. Et il a tout de suite accepté.
C'est ça. Et en fait, l'idée, derrière Un corps sans douleur, c'était de proposer une base de travail autour du rééquilibrage des chaînes musculaires des gens, et ensuite de leur proposer un système d'entraînement qui va avec. D'où les livres qui sont sortis par la suite.
Donc, par la suite, c'est lequel qui est sorti? Athlète, musculation athlétique ou haute densité?
Musculation haute densité. Alors, musculation haute densité, c'est un livre qui s'adresse principalement à des sportifs, qui veulent faire de la muscu de façon de la musculation sportive, c'est-à-dire l'objectif de musculation haute densité, c'est pas de prendre 10 kilos de muscles, c'est pas forcément d'avoir 40 ou 45 de tour de bras, c'est de développer de l'explosivité, de la puissance en vue d'une pratique sportive, tout en respectant en fait les chaînes musculaires, etc., les préceptes que j'ai donnés dans Un corps sans douleur. Donc ça, c'est la base. Forcément, quand tu fais de la muscu, tu prends quand même un peu de masse musculaire, voilà, mais on ne deviendra pas Schwarzy, Stallone, Van Damme avec musculation haute densité. C'est pas la thématique
du... Donc le haute densité, pourquoi le haute densité?
Alors, pourquoi le haute densité? Parce que le gros problème, c'est que si tu veux passer suffisamment de temps pour faire du stretching, faire des exercices de rééducation, si tu veux faire une certaine forme de musculation en adressant toutes les chaînes musculaires en même temps, etc., il te faut une journée entière. C'est-à-dire que tu dois arrêter de bosser, gagner au loto, et en fait faire de la muscu toute la journée. Donc, l'idée, c'était de sélectionner des exercices qui adressent à l'intérieur d'un même mouvement, en fait, beaucoup de choses au corps. Voilà. C'est pour ça que mes exercices sont parfois appelés exotiques sur certains forums. ils sont juste pas compris. C'est juste que, voilà, à l'intérieur d'un même mouvement, on fait beaucoup de choses. On adresse beaucoup de choses au corps. C'est-à-dire, on travaille à la fois le gainage, on travaille à la fois la mobilisation d'une articulation, la stabilisation d'une autre articulation, tout en améliorant la puissance d'une autre articulation. Alors c'est sûr que dit comme ça, ça fait sourire, mais quand on essaye et quand on veut bien prendre le temps de réfléchir au système, ça fonctionne. Et c'est pas que je le dis, c'est que je l'ai expérimenté et qu'il y a beaucoup, beaucoup en fait de gens dans le monde qui utilisent ça. Pas parce que c'est moi qui ai inventé tout ça, hein.
Ouais, parce que c'est...
Parce que ce sont des exercices, encore une fois, que j'ai soit récupérés, soit améliorés, voilà. Moi, il y a quelques mouvements dans musculation haute densité que j'ai inventés, mais pour la grande partie, ce sont des choses que j'ai simplement améliorées autour d'un concept des chaînes musculaires, voilà.
Donc ensuite, il y a musculation athlétique, qu'est-ce que...
Alors la différence, musculation athlétique, c'est un... Alors, musculation athlétique, c'est un bouquin qui répond à plusieurs niveaux. La première des choses, c'est que être tout le temps en salle, moi, ça me gonfle. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés par les poids, les haltères, etc. Mais moi, j'ai la chance d'habiter dans le sud de la France. Donc c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien être dans un parc avec une barre fixe, des barres parallèles, et faire du travail de base. Quand je faisais du karaté artistique, je faisais de la gym acrobatique pour apprendre certaines bases acrobatiques. Et donc j'ai pratiqué les anneaux, la barre asymétrique, etc. Et je peux vous dire que en matière de muscles de force pure, les gymnastes sont des gens qui sont balèzes. Quand je vous dis balèze, c'est balèze. Donc en fait, musculation athlétique, c'est vraiment un travail de musculation pour les gens qui ont soit pas beaucoup de matos, soit qui veulent s'entraîner en extérieur, soit tout simplement qui veulent obtenir le corps d'un athlète, mais le corps d'un athlète au sens large. Voilà.
Donc on ne devient pas énorme avec...
On ne devient pas énorme avec musculation athlétique, quoique si on s'entraîne vraiment selon les systèmes que j'ai sélectionnés dedans, j'ai choisi différentes méthodes de travail, comme ce que j'appelle la densité croissante, où on ne fait ni plus ni moins que noter un certain nombre de répétitions à la fin d'une séance, par exemple de traction, de pompe, et la séance d'après on essaie d'en faire 2, 3 ou 4 de plus, et ainsi de suite. Ou le plate-neck fonctionnel, dans lequel on combine différents régimes de contraction musculaire, tout ça combiné avec des tractions et tout ça. Du coup, si on prend pareil le temps d'essayer, on ressort un peu fracassé, quoi. Alors, j'ai pas du tout la prétention de dire que, qu'un culturiste, encore une fois, il va développer un corps de culturiste avec ça, parce que c'est pas la thématique de mes livres. Par contre, ça développe une base athlétique qui peut être intéressante pour n'importe qui.
Je peux se transférer dans d'autres sports, voilà.
Tout à fait, voilà. Et voire même un gars qui fait de la musculation pour avoir un beau physique, faire un ou deux cycles de musculation athlétique du programme du livre, ça peut être utile et intéressant, quoi. Et puis surtout, encore une fois, ça va dans cette logique de respecter l'équilibre des chaînes musculaires, voilà. Donc, pour tous ceux qui ont des blessures récurrentes, je pense que de temps en temps, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil.
Mais après, t'as fait un livre, la meilleure façon de courir.
Ouais.
Alors, pourquoi la meilleure?
Alors,
question, en fait.
Alors, parce que, en fait, la meilleure façon de courir, parce que ça partait d'un truc simple, c'était qu'il y avait des... moi, j'écris pour des revues de course à pied.
T'écris pour... oui, je t'ai vu sur des couvertures. T'écris pour quoi, de jogging?
Alors, j'écris pour Running Attitude. Running Coach, Cyclo Coach, un magazine de cyclisme, Cyclosport, un autre magazine de cyclisme. J'écris pour le Punch Mag, un magazine de boxe, et de temps en temps Karaté Bushido. Voilà. Et ça, c'est pour la parenthèse.
Genre. Le monde du muscle aussi, t'écris?
Et j'écris, oui. Et j'ai oublié le monde du muscle, j'ai ma chronique tous les mois, tout à fait. Merci, Rudy. ouais, exact. Donc voilà, donc ça fait pas mal de choses à faire tous les mois. Et donc la meilleure façon de courir, c'est comme j'avais beaucoup de gens qui m'écrivaient tout le temps pour me dire qu'ils étaient blessés et ils avaient des tendinites à la voûte plantaire et des tendinites d'Achille et des problèmes au niveau des hanches. J'ai commencé à réfléchir à une façon différente, en fait, de pratiquer la course à pied. Voilà, et ce que je propose dans la meilleure façon de courir. Voilà, donc c'est pas compliqué, c'est ça m'est venu en regardant Forrest Gump. Et à un moment donné, dans la période où que Forrest Gump traverse, où il ne fait que courir, il traverse les États-Unis de part en part, et la vieille dame lui demande, quand ils sont sur le banc, mais vous faisiez quoi, en fait? Et il lui répond, quand j'avais envie de courir, je courais, quand j'avais envie de manger, je mangeais, et quand j'avais envie de dormir, je dormais. Et je me suis dit, en fait, le trois quarts des coureurs, leur problème, c'est qu'ils ne... lorsqu'ils partent courir, on dirait qu'il y a une obligation de courir. Alors qu'en fait, à un moment donné, quand tu as une tension qui apparaît au niveau du mollet, au niveau du tendon d'Achille, rien ne t'empêche de marcher pendant 100 mètres, le temps que cette tension elle se dissipe, et puis de reprendre après. Ben ça, personne ne le faisait. C'est-à-dire les gens...
Ouais, t'as ton chrono, alors tu veux...
Voilà.
tu te dis, si je m'arrête,
sauf que le corps, de temps en temps, il trouve un moyen de te dire, oh, j'en ai marre que tu ne m'écoutes pas. Et ça se transforme en tendinite, en contracture, en déchirure, voilà. Et comme mon créneau, c'est vraiment la prévention des blessures, parce que je pense que personne n'aime être blessé dans sa pratique sportive, qu'on soit athlète, fondu de muscu, voilà, ou coureur du dimanche. Je crois dans ce que je fais et je vais jusqu'au bout de ça. Voilà.
Donc, tu as un autre livre, c'est le livre pour les filles.
Alors, le livre pour les filles, Mon plan forme et minceur. Voilà, les gars, si vous tombez là-dessus, ne l'achetez pas, il n'est pas pour vous. Hein. On parle de cycles hormonaux, de règles, etc. à l'intérieur. Donc l'objectif de ce bouquin, c'était pareil, de proposer une façon de s'entraîner en fonction du cycle hormonal des femmes et en fonction de la métamorphose de la femme au fil des années. Parce que le corps d'une femme, il se transforme petit à petit. C'est pas la même chose quand on est ado, quand on est une femme dans la force de l'âge, et puis quand on est touché par la ménopause par la suite. Donc du coup, l'environnement hormonal de la femme change au fil de sa vie, et par conséquent, on peut adapter la nutrition, l'entraînement, les compléments alimentaires, etc. Voilà, donc ce livre propose une façon de s'entraîner qu'on peut poursuivre comme ça tout au long de sa vie, ou en tout cas qui propose une base de travail pour toutes les femmes qui veulent s'entraîner d'une façon cohérente et respectueuse de leur corps. Voilà.
Donc, tu as d'autres livres en prévision ?
Et donc, il y a deux livres là qui sortent cet hiver. Un qui sort début mars, qui proposera mon approche sur les abdos, et qui sera en fait un zoom d'un corps sans douleur, c'est-à-dire dans un corps sans douleur, Exactement, au niveau des abdos et du bassin. Donc tout ce qui est rééquilibrage de la posture au niveau des abdos et du bassin. Donc à travers des exercices de gainage, des exercices dans lesquels on va travailler sur ce qu'on appelle le couple de force, c'est-à-dire l'équilibre entre les muscles érecteurs de la colonne et le grand droit, etc. Donc travailler à cet équilibre-là pour rééquilibrer en fait la posture des gens. C'est-à-dire les gens qui sont trop cambrés, diminuer cette hyperlordose, et les gens qui sont pas assez cambrés, l'accentuer pour avoir justement un squelette mieux aligné et qui puisse encaisser soit plus de choc au niveau du sol si on court, soit plus de poids sur les épaules si on fait du squat, etc.
Et le deuxième,
c'est un bouquin sur le stretch, et qui ira beaucoup plus loin en fait dans toutes les techniques d'automassage que j'avais présentées dans un cours sans douleur. Et là, en fait, on ratisse de A à Z.
Donc, il y aura les techniques de massage et en même temps du stretching.
Exactement, et surtout combiner les deux pour améliorer en fait la vitesse à laquelle les gens progressent en souplesse. Il y aura des méthodes d'étirement qui n'ont pas vraiment encore été beaucoup présentées en Europe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent qu'un seul mode de travail d'étirement, et le corps, malheureusement, parfois il se sent plus agressé qu'autre chose, donc en fait il se rétracte, les muscles se rétractent plus qu'ils ne s'étirent. Donc en fait, de temps en temps, il faut utiliser d'autres méthodes pour augmenter sa souplesse. Il faut parfois accepter de faire des exercices dans lesquels il n'y a pas de souplesse. Voilà, donc on va parler de tout ça dans ce nouveau bouquin.
Qui sortira
celui-là, il sort fin avril.
Fin avril.
Voilà.
Donc celui pour les abdos, il sort pour le salon
ou quoi ? Ouais, c'est ça, exactement. Je serai au salon du body pour la promo de ce livre et puis rencontrer tous les gens de Superphysique qui veulent me rencontrer là-bas. Voilà.
Et donc pour tes livres, hein, en même temps tes DVD, t'as un forum qui est mis en place exprès où on parle de tes livres.
Voilà, alors en fait, comme tout ce qui est novateur, les gens ont parfois beaucoup de questions. Et comme c'est important de répondre à ces questions, j'ai créé un forum particulier sur mon site internet, www.christophe-cario.com, rubrique forum. Voilà, on s'inscrit et puis c'est moi qui réponds personnellement. Alors des fois je mets quelques jours pour répondre, mais c'est toujours moi qui réponds. Voilà.
Donc en gros là on a vu que ton approche de la musculation c'était la prévention des blessures tout en étant efficace.
Ouais.
On peut définir ça comme ça.
Mmh.
Donc c'est respecter son corps, la santé.
Ouais, améliorer les performances du corps à long terme. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir continuer à sauter très haut, courir très vite, avoir un super corps et des super abdos à 70 ou 80 ans. Voilà. Je sais pas si ça sera possible.
Mais est-ce qu'on peut être performant et rester en bonne santé tout le long?
Je pense que oui. En tout cas,
c'est ton idée.
C'est mon idée et c'est l'approche que je développe dans mes livres. Donc, plus les gens me donneront des feedbacks dessus, plus je pourrai justement améliorer le contenu aussi des livres, puisqu'un livre, ça se réédite. Donc déjà, la prochaine réédition d'Un corps sans douleur, on va prendre en compte les avis de certains lecteurs et tout ça. Voilà. Moi, mon but, c'est d'apporter des choses auxquelles je crois aux gens et de partager, voilà, mon savoir, mes connaissances. Voilà, des fois, on pense juste que c'est du business. C'est sûr que c'est du business, hein. Je vends des livres, je gagne ma vie en partie avec, mais c'est pas que ça. Voilà, moi, c'est mon côté altruiste qui parle.
Voilà. Tout à l'heure, tu nous parlais des compléments alimentaires, donc ouais. On parlait un peu diététique.
Ouais.
Tu manges comment?
Alors, je mange très sain. Je mange très très sain. Ça, une journée pour moi, c'est quoi? Alors, le matin, généralement, je prends des flocons d'avoine accompagnés de morceaux de figues sèches, avec une dose de protéines en poudre, de whey protéine au chocolat. Je prends ça généralement avec de l'eau. Voilà, c'est à peu près mon petit déj, c'est à peu près standard. Je prends un shake de protéines avant l'entraînement, un shake de protéines avec du raisin, du raisin frais après l'entraînement. Alors je sais qu'il y a le Vitargo qui existe.
Ouais, je
n'y suis pas encore mis. Peut-être que j'ai
mis mes fêtes.
Ça fait partie des choses. Je regarde sur Superphysique les avis sur les marques, etc. Généralement, je prends beaucoup de légumes et du poisson ou du poulet à midi. À 16h, je prends une collation. Alors, ça peut être en fonction de ce que j'ai à faire, soit une barre de protéines, soit un shaker de protéines avec, pareil, quelques fruits à nouveau. Généralement, je m'entraîne une deuxième fois dans la journée.
Deux fois par jour, tu t'entraînes ?
Ouais, j'ai la chance de pouvoir. Ben, j'ai une petite salle chez moi, donc j'écris, je réponds à mes mails, où je reçois certains athlètes qui voyagent de loin, que je coach à la maison, et puis voilà. Et en fin d'après-midi, je me réentraîne. Voilà, soit c'est du karaté, soit c'est de la muscu, soit c'est du cardio. Voilà, je fais toujours deux entraînements d'environ une heure par jour, donc une heure le matin, une heure le soir. Et le soir, généralement, je prends à nouveau beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et poulet ou alors viande de bison, viande d'autruche, voilà.
Jamais de féculents.
Je mange peu de féculents parce que j'ai un mauvais métabolisme malgré ma charge d'entraînement. Je prends facilement de la graisse. Donc, je fais par exemple plutôt un régime cyclique au niveau glucidique, à savoir que deux jours, je consomme que des glucides après l'entraînement, sous forme rapide, alors des fruits généralement, pour alcaliniser un petit peu la séance. On pourrait redire là-dessus.
Ouais,
en tout cas, pour l'instant, ça marche bien pour moi. Et deux ou trois fois par semaine, je fais une journée de recharge, où là, je mange du quinoa, des pâtes de sarrasin, du riz basmati, voilà.
Tu prends rien, qui vient du blé en fait.
Ouais, je suis plutôt allergique, plutôt intolérant au gluten, donc j'évite. Ça m'empêche pas de faire un resto avec du bon pain de temps en temps, mais j'évite le gluten, ouais. Je digère pas bien, voilà. J'ai le ventre qui gonfle, ça me correspond pas terrible, quoi. J'ai l'impression qu'autour de la table c'est pareil. donc voilà à peu près. Et ça, je fais ça deux ou trois jours par semaine. C'est des journées recharge, quoi, où je mange à peu près 400 grammes de glucides dans la journée et je repars pour
une fin de
Ouais. Et puis, tous les 15 jours, je me fais un gros resto. Voilà.
C'est-à-dire un gros resto?
Un gros resto.
Tu manges à fond?
Ah, je mange à fond, ce que je veux. Voilà.
Gros quantité?
Ce que je veux. Ça peut être, si j'ai très faim, je peux manger deux pizzas, je peux, voilà, je peux aller manger, je sais pas, du libanais,
Et tu te sens bien après?
Non, alors je me sens, alors c'est une très bonne question, Rudy, je me sens pas, je me sens pas terrible après, je me sens
lourd. Tu te sens bien pendant? Mais ouais. Après, t'as chaud.
Oh, j'ai chaud, je suis pas bien, je suis lourd, je suis couffi, j'ai le bide complètement dilaté.
Ouais.
Donc non, c'est pas des bonnes sensations.
Et malgré tout, tu continues quand même, après ça, tu fais deux semaines.
Alors, c'est pas que je continue, c'est qu'il faut bien avoir une vie sociale,
et déjà que,
avec le rythme de vie que j'ai, c'est pas facile, si tu veux, d'avoir une vie sociale normale, parce que il y a très peu de gens hein, qui suivent une alimentation comme toi tu peux la suivre ou d'autres personnes peuvent la suivre sur Superphysique. Bon, on sait déjà qu'il y a 1200 personnes, hein, de tous les membres de Superphysique, qui font à peu près la même chose, c'est déjà pas mal. Mais mine de rien, c'est pas la majorité des gens. Donc quand les gens viennent chez toi, qu'il n'y a pas de coca, qu'il n'y a pas d'alcool, qu'il n'y a pas de jus et qu'il y a juste des carottes râpées à manger. Ça passe pas.
Genre du quinoa, je sais pas moi.
Oui, sauf que les gens, quand ils regardent le quinoa, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est, ça c'est des asticots. Donc voilà, donc c'est vrai que il n'y a pas une personne qui est plus convaincue que moi par les bienfaits d'un entraînement bien conçu, d'une alimentation pointue, d'une alimentation bien équilibrée, d'une bonne supplémentation. J'y crois dur comme fer, ça fait 20 ans que je fonctionne comme ça. Maintenant, il y a très peu de gens qui font ça. Faut quand même en avoir conscience. Hein. Non, parce que quand on est dans son milieu de la muscu, on a tendance à se dire que tout le monde fait comme nous. Mais c'est pas vrai.
Ouais. C'est pour savoir. Tu te sens mal, tu te dis que tu vas arrêter.
Non, mais t'as raison. C'est vrai que après un gros repas au resto,
tu bouges plus.
Ouais, tu bouges plus, t'es pas bien. Je suis entièrement d'accord avec toi, Rudy.
Bah, je suis passé par là, toi, je te dis ça.
Ouais.
Il a plus d'amis maintenant. Une vie sociale, mais il mange pas.
En pleine forme. Et donc, les suppléments, tu parlais des suppléments. Qu'est-ce que tu prends comme supplément alors?
Ouf! Alors,
il y a un paquet.
Tous les jours, je prends un complexe de magnésium et de vitamine B. Je prends en hiver, c'est-à-dire de octobre jusqu'à avril, je prends de la vitamine D3, environ 5000
alors, oméga 3
Ouais, je prends des oméga 3, grosso modo 3 ou 4 grammes par jour. Je prends de la whey protein. Je prends de la créatine en post-entraînement avec mon shaker de récup. Ça, c'est ma grosse base au niveau complément. De temps en temps, je prends de la vitamine C quand je suis sur des cycles d'entraînement un petit peu costauds et que tout le monde est malade autour de moi. Qu'est-ce que je rajoute?
Pour les articulations, tu prends rien?
Non, je prends rien pour le moment, grâce à un corps sans douleur, bien entendu. Non, pour l'instant, j'ai la chance de pas avoir de problème articulaire majeur. Attends, je fais le tour, les compléments. Et si je prends un complexe d'antioxydants, voilà.
Donc, qui contient
du zinc, du lycopène, de la lutéine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Un petit peu de sélénium. Je crois que c'est à peu près tout, voilà. Ça, c'est ma base de compléments. Ma base de compléments alimentaires. Quand je veux vraiment être sec pour une séance photo ou pour un objectif particulier, je prends de la L-tyrosine le matin à jeun, accompagné d'un café ou un truc comme ça, un petit peu pour me booster pour la journée. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre en termes de compléments alimentaires? Et je prends de la bêta-alanine. Alors j'ai
essayé.
Ouais. Alors moi aussi ça me picote.
Non, mais tu sens des effets sur la performance?
Ah moi oui. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que je consomme pas beaucoup de glucides, donc du coup j'en tire vraiment parti. Mais moi, je vois vraiment une différence, ouais. Alors, je soulève pas, je fais pas vraiment des charges lourdes. C'est-à-dire, mon objectif, c'est pas de faire des perfs au développé couché ou en squat. Tu vois, j'ai des barres en développé couché, j'ai des barres à 100, 105 kilos. En squat, je squatte encore à 140, 150 kilos, grosso modo. Mais je sais que je pourrais aller plus haut, mais je cherche pas à le faire. Par contre, je fais souvent des séries, tu vois, plus à l'échec ou des choses comme ça, en série de 8, 10, voire 12 reps sur certains mouvements. Et là, je sens vraiment que la bêta-alanine, ça m'aide, quoi.
Donc, tu gagnes des répétitions.
Ouais, je gagne des répétitions, je récupère plus vite entre deux séries. Parce qu'en plus, moi, j'affectionne particulièrement les séries agonistes-antagonistes. Donc, du coup, je fais une série de, je sais pas, de développés couchés avec du tirage, immédiatement, tu vois, donc avec souvent un peu de récup, je prends une minute de récup après avoir groupé les deux super séries. Bref, j'ai un entraînement qui est assez intense, donc je pense que la bêta-alanine, ça m'aide vraiment à garder ce rythme-là, cette intensité d'entraînement, ouais. Voilà. Et je sens ouais, la différence quand j'arrête en fait. Parce que j'en prends pas toute l'année parce que j'avais posé la question à Soukar, les fourmillements qu'on peut ressentir, parce que c'est flagrant, hein, en tout cas chez moi.
C'est toi, ouais. Moi, il y en a beaucoup qui le ressentent. Ouais.
Ouais. Et en fait, ça agit en fait sur les terminaisons nerveuses, tout simplement.
On parle sur l'histamine, on en a parlé sur
tout. Ouais, alors ben, je suis tombé là-dessus l'autre jour. Justement, j'ai envoyé la réponse à Thierry Soukar pour qu'il me donne son avis. Parce que l'intérêt justement des forums et des gens qui sont passionnés, c'est que des fois ils vont chercher des réponses dans des directions où tu n'aurais jamais creusé. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de se servir de l'expérience des uns et des autres pour faire avancer le schmilblick, quoi. Voilà.
Donc maintenant, on va parler de ton travail. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que là, tu m'as dit parce que tu es un bateau en Australie.
Alors, ouais. Alors, en fait, le gros de ma profession, c'est j'écris des articles pour des magazines. Ça, on l'a dit. Mon deuxième pôle d'activité, j'écris des livres. Ça, on en a parlé. Mon troisième pôle d'activité, je m'occupe de la préparation physique ou de la réadaptation d'athlètes de très haut niveau. Voilà. Donc là, je m'en vais en Australie pendant presque un mois pour m'occuper de gens qui font du rugby, pour m'occuper d'une personne qui prépare les prochains JO, qui est un perchiste australien, qui a des problèmes récurrents de dos. Voilà. Donc on m'a demandé d'apporter mon expertise. Je dois travailler avec un gars qui a un problème, qui fait du cricket, parce que le cricket c'est très développé en Australie. C'est le hockey sur gazon australien. Bref, voilà ce que je vais faire là-bas pendant un mois.
J'ai vu aussi, les gens venaient chez toi pour du coaching, on a vu sur ton site.
Ouais, alors ça c'était pour répondre à des gens en fait qui étaient un peu perdus avec les méthodes de mes bouquins. Donc en fait, je reçois des gens et souvent des gens qui ont des problèmes récurrents, soit des problèmes de dos récurrents, mais qui savent pas trop, qui ont cherché différentes pistes chez des ostéos, des kinés, des médecins, qui n'ont pas trouvé de réponse et qui ont trouvé les propos de mes bouquins suffisamment intéressants pour venir me voir jusqu'à Montpellier.
Donc pareil, vous organisez des stages aussi.
Ouais, alors en fait, c'est souvent les stages d'été en fait que je fais, ce sont des stages qui permettent aux gens de pratiquer pendant une semaine les différentes méthodes de mes bouquins et puis d'être là, de pratiquer tous ensemble, de poser des questions et puis d'essayer de répondre le plus possible aux gens sur leurs problématiques, sur les problématiques qu'ils rencontrent. Et là, en mai, puisqu'on parle de stage, je vais partir en tournée de stage et de conférence en France.
En France.
Ouais. On va organiser ça avec Thierry Soukar Édition. Et, il y a certains clubs, je vais retourner dans certains clubs de karaté qui pratiquent un petit peu la muscu en complément, voilà. Et donc voilà, on va faire.
Parce que tu as eu des demandes.
Ouais, en fait, on va grouper par région. Et puis je vais me déplacer, je ferai une conférence à une librairie, une FNAC, un entraînement de muscu ou de préparation physique le soir dans un club, et puis le lendemain ailleurs, et puis le surlendemain ailleurs, etc. Donc ça, je le mettrai en ligne.
Ouais, ça c'est
voilà.
Intéressant.
Le but, c'est de venir voilà, au contact des gens, et puis de pouvoir discuter avec eux, qui posent des questions. Pas m'insulter, parce que j'aime pas les insultes. Ceux qui veulent m'insulter, qui restent chez eux, ça sert à rien de se déplacer.
Voilà. Et donc là, tu dis que tu vas rentrer pour une équipe de rugby, c'est la fédération qui te prévenait ou c'est une équipe
Alors, ça se passe. Ça, je peux pas trop.
Confidentiel.
Non, c'est pas que c'est confidentiel, c'est que comme j'interviens en marge, si tu veux, de. Je suis un consultant externe d'une équipe, donc. Les équipes professionnelles, elles n'aiment pas avouer que leur staff est pas forcément compétent.
C'est la fédération qui te fait venir.
Alors c'est une équipe pro australienne qui me fait venir. Voilà, je pourrais pas en dire plus.
Non, en gros, t'as vraiment spécialité dans le sport. Tu fais tous les sports.
Ouais. En fait, moi, ma spécialité, c'est de prendre des gens généralement qui ont des problèmes physiques récurrents. Et de trouver la solution, c'est-à-dire trouver pourquoi il y a des temps de limite, pour trouver pourquoi il y a une hernie discale, parce qu'une hernie discale, oui, il y a un disque qui s'est déchiré, le noyau qui est sorti, mais pourquoi on s'est déchiré à cet endroit-là, pourquoi le noyau est sorti, est-ce que c'est la posture de travail qui était pas bonne, est-ce que c'est l'entraînement lui-même qui était pas bon, etc. Et surtout, comment on fait pour permettre à un sportif de revenir au meilleur niveau. Parce que les sportifs, la raison qui les a amenés à les blesser, ils s'en foutent un petit peu. Eux, ce qui les intéresse, c'est de retourner sur les terrains, etc. Et dans certains cas, regagner des millions de dollars, parce que c'est bien de ça dont on parle. Voilà.
Donc tes projets, t'as dit qu'il y a deux livres qui sortaient cet hiver.
Ouais, deux livres qui sortent cet hiver. Il y a cette tournée de stages et de conférences qui s'étalera sur mai-juin. J'ai mes deux semaines de stage d'été, voilà, première semaine de juillet, deuxième semaine de juillet, et il y a d'autres projets qui arrivent en septembre. J'ai une chaîne YouTube aussi qui va être créée là dans les prochaines semaines.
Mais on y retrouvera quoi alors
cette chaîne ? Alors sur cette chaîne YouTube, c'est pas compliqué, puisque les gens ne comprennent pas les exos de mes livres, et ben je vais les expliquer. Ce sera un exo chaque semaine. Voilà, donc on piochera les exos les plus exotiques, les plus loufoques, et puis je les expliquerai un peu comme j'ai fait sur pour un de mes anciens sponsors, Azix, où j'expliquais des mouvements, etc. Là voilà, je vais prendre des exos de muscu et je vais les détailler, voilà, expliquer qu'est-ce qui travaille, quelle chaîne musculaire, comment améliorer ceci, comment améliorer cela, voilà, quel objectif on poursuit avec tel mouvement. Voilà.
Donc pas d'autres livres en préparation.
Et il y aura d'autres livres en préparation, mais la concurrence est tellement tellement rude, n'est-ce pas, Monsieur Frédéric Delavier et Michael Gundil, que voilà, on va rester là. D'ailleurs, des très bons livres, je tiens à le préciser, je suis un fervent lecteur. Si vous m'écoutez, Frédéric et Michael, je vous salue. Voilà.
C'est le mot de la fin.
C'est le mot de la fin, voilà. Merci à Super Physique.